Un espace d'accueil, d'expression et d'échange, la ville de Nouméa a inauguré hier matin son nouveau pôle jeunesse destiné aux 12-26 ans, rue Gallieni. Nouvelle perturbation dans les transports ce week-end. Air Calin a annulé ses vols entre Nouméa et Sydney, prévu hier. Le Betty Show repousse une nouvelle fois sa reprise qui était prévue mercredi, puis hier. Le Secours catholique poursuit sa collecte ce dimanche. Ses bénévoles seront ce matin à la sortie des messes pour collecter de l'argent afin d'aider les plus démunis. Un gros bonnet de la drogue détenu dans une prison de haute sécurité en métropole se retrouve dehors le temps d'un week-end. Une liberté en toute légalité, explication dans ce journal. Plus de 2 mois après la mort de la jeune Liana, l'affaire continue d'ébranler les systèmes policiers et judiciaires. Une lettre du ministre de la Justice à son collègue de l'Intérieur fait état de profonds dysfonctionnements. Le sport, le cyclisme avec le Tour de France Dames, la néerlandaise Demi Vollering a frappé un grand coup en remportant la 8e étape et en s'emparant du maillot jaune à la veille de l'arrivée. Et puis la sélection calédonienne de volleyball a validé sa place aux Jeux du Pacifique. Les Calédoniens sont imposés sur Wallis et Futuna sur le score de 3-7-2 en demi-finale des Oceania à Guam. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, au chapitre des faits divers, une soirée et une nuit très agitées au Mont d'Or. Plusieurs faits de violence et de délinquance ont été signalés. Plusieurs départs de feu se sont également produits et un bus a été incendié tout près du centre culturel à Boulary. Nous venons de faire le point avec Nina Juillet, qui est le maire du Mont d'Or.
Une nuit bien mouvementée effectivement au Mont d'Or avec pas moins de 6 départs de feu. Des poubelles, des feux de bord de route, des déchets verts, et puis l'incendie d'un bus, malheureusement. Le bus a entièrement cramé au complexe sportif de Boulary. Il semblerait que ce soit un acte de délinquance malveillant. Et donc les gendarmes et la police municipale ont couru toute la nuit. On est bien à la veille de vacances, on avait bien prévenu de cette situation. Je vais écrire dès ce matin un courrier au commissaire, je l'avais déjà alerté, j'avais même rendu public mon désaccord sur le fait de supprimer des forces de l'ordre à la veille des vacances. Donc là, je vais lui réécrire un courrier, lui demander de réorganiser les forces et surtout de renforcer la gendarmerie sur la commune pendant cette période de vacances. Le commissariat de police a été privé d'électricité pendant une bonne partie de la nuit. Et puis les terrains de tennis ont été endommagés. D'ailleurs, je préviens les utilisateurs du site aujourd'hui de faire très attention parce qu'il y a des compétitions. Donc voilà, c'est encore une fois des dépôts de plaintes, c'est encore une fois la population qui trinque.
Je vous rappelle qu'hier, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, s'était exprimé sur la recrudescence des actes de violence au Mont d'Or et sur la levée du verrou nord de Tabor. Il a indiqué avoir écrit au ministre de l'Intérieur. Il a officiellement demandé à Laurent Nunez de revenir sans délai sur le retrait des escadrons de gendarmerie mobile déployés en Nouvelle-Calédonie. Nicolas Metzdorf a également demandé à ce que des gendarmes soient affectés en brigade. Le député a ajouté qu'il portait le projet de passer le Grand Nouméa en zone police nationale. La ville de Nouméa a inauguré hier son nouveau pôle jeunesse destiné aux 12-26 ans. Un équipement, Michael Juneski, situé dans les locaux de l'ancienne police municipale rue Gallieni.
Un lieu pensé pour répondre aux envies et aux besoins des jeunes, avec un espace d'accueil, d'accompagnement et d'expression, mais aussi de nombreuses activités pour favoriser les échanges et l'accès aux loisirs. Un équipement devenu nécessaire, selon le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
C'est un vieux projet qu'on a dû abandonner en cours de route parce qu'on a eu 2024 et on l'a repris tout de suite après. On a réussi à le concevoir grâce à une aide importante de l'État. Et cet endroit est devenu le centre d'un dispositif pour la jeunesse de Nouméa. Nous, on va aujourd'hui vers les jeunes dans les quartiers, mais il fallait un lieu qui rassemble. C'est un vrai projet partenarial parce qu'il a été travaillé pendant plusieurs années avec les jeunes du Conseil local de la jeunesse. C'est un beau projet. C'est une belle journée pour la mairie et c'est une belle journée pour la jeunesse. Et demain, ça doit être un lieu qui doit vivre et que les jeunes doivent faire vivre.
Et parmi les ateliers proposés ce samedi, la réalité virtuelle a notamment attiré de nombreux jeunes, tout comme le pôle sport qui permettait de découvrir différentes activités. Quentin est éducateur sportif au sein de Sport Action.
Le pôle jeunesse, sincèrement, c'est un bel outil que la ville nous met à disposition pour les jeunes. Et nous, plus spécifiquement Sport Action, on est là sur place, c'est nos bureaux ici. Et aujourd'hui, on propose plusieurs activités. On a du tennis de table avec Cédric et Quentin. Et on a du circuit training, du workout avec Jérémy et Jonathan. Cet outil est créé pour ça. C'est pour essayer d'aider un petit peu la jeunesse dans ses temps libres. et puis ben, leur donner l'opportunité de découvrir des activités. Alors nous, on est plus sport, mais après, il n'y a pas que ça non plus ici, quoi.
Des activités physiques donc, mais aussi des ateliers artistiques, de la danse, un studio d'enregistrement. Les jeunes ont déjà pris possession des lieux.
C'est un atelier de réalité virtuelle. J'ai trouvé ça bien parce que les montées russes, elles étaient bien faites.
On s'est arrêté à un stand de conseil local jeunesse. Et puis là, on a fait une petite photo tranquille pour faire un petit souvenir. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant et que c'est bien pour la jeunesse en fait, d'avoir des activités, de s'occuper et puis d'être accueilli dans de bonnes conditions.
Je trouve qu'il est vraiment super beau. Il y a vraiment plein d'infrastructures qui ont l'air vraiment pas mal pour le coup. J'ai eu un petit aperçu, truc virtuel et tout. Ça a l'air bien, il y a plein d'activités différentes, je trouve que c'est bien.
Une inauguration qui s'est déroulée en présence du directeur de la mission interministérielle à Amaury de Clude, du haut-commissaire Jacques Billon, de la membre du gouvernement chargée de la jeunesse Nina Julier, ainsi que de plusieurs représentants des institutions calédoniennes.
L'actualité des transports avec de nouvelles perturbations ce week-end. D'un côté, Air Calin qui annule des vols et de l'autre, le Betticho qui repousse sa reprise. Dans les airs, d'abord, Air Calin a annulé ses vols SB140 et SB141 qui étaient prévus hier entre Nouméa et Sydney. Décision liée à un problème technique sur l'appareil qui devait assurer ses rotations. La compagnie a précisé hier soir que ses vols seront finalement reprogrammés demain à lundi. Et puis en mer, le Betticho, qui était en carénage depuis le début du mois de juillet, repousse sa première rotation, initialement prévue mercredi, puis hier. Le navire n'a finalement pas assuré sa rotation entre Nouméa et Marée, en cause d'un nouvel aléa technique sur l'un des groupes électrogènes. Les équipes sont mobilisées et espère reprendre la mer dès aujourd'hui.
RRB, il est 7h06.
Le Secours catholique poursuit sa collecte ce dimanche. Ses bénévoles étaient mobilisés dès hier à la sortie des principales grandes surfaces de l'agglomération. L'objectif est de collecter des denrées alimentaires ou encore des produits d'hygiène. Ce matin, les bénévoles seront notamment à la sortie des messes pour collecter de l'argent afin d'aider les plus démunis. Direction Farino avec son marché de mamie qui va animer la place de la mairie. Aujourd'hui, marché qui sera placé sous le signe de la gourmandise et de l'émotion. Les Calédoniens sont invités à partager un moment chaleureux à l'occasion du marché de mamie organisé en hommage à notre chère mamie qui nous a quittés en août 2020. Son amour du partage, de la famille et des bons produits locaux continuera de vivre à travers cette belle journée. Au programme notamment à 10h30, vous pourrez assister ou participer au concours de plats cuisinés qui est ouvert à tous. Les précisions de Ghislaine Arly, la responsable du marché de Mamie.
Au mois d'août, c'est le marché en hommage à Mamie, puisque Mamie est partie le 1er août 2020. Donc ça a fait 10 années. Donc nous faisons un marché où nous lui rendons hommage par les produits et puis par un concours de plats cuisinés. Et puis on met en exergue tous les bons produits qui ont permis de faire ces bons petits plats, quoi.
Par exemple, qu'est-ce que l'on trouvera sur place?
Tous les produits que Mamie utilisait, parce que Mamie utilisait beaucoup des produits de terroir calédoniens, donc des chouchous, des citrouilles, tous ces produits-là seront à la vente. Et puis, on fera ce fameux concours de plats cuisinés avec, éventuellement, si les gens peuvent faire les plats de mamie, qui sont sur ces petits livres qu'elle a édités. Puis, on ouvre à d'autres plats que les gens pourraient faire de leur invention, quoi, avec des produits bien de chez nous.
Et le marché de mamie, c'est donc de 8h à midi. Ça se passe évidemment sur la place de la mairie de Farino. Il est 7h10 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. L'actualité en métropole.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
EEC Smart, l'appli qui simplifie la vie. Vous suivez votre consommation en direct. Vous voyez vos factures, les coupures, les conseils, les incidents. Vous pouvez aussi payer en ligne et transmettre vos index solaires. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole avec ce gros bonnet de la drogue détenu dans une prison de haute sécurité qui se retrouve dehors le temps d'un week-end. Liberté en toute légalité. Le détenu du quartier de lutte contre la criminalité organisée de Condé-sur-Sarthe a été autorisé à quitter sa cellule. Ce prisonnier, qui est en plus sous OQTF, passe le week-end chez sa sœur à Mulhouse. Charles Bouchin pour Europe 1.
C'est précisément au titre du maintien des liens familiaux qu'Adèle G a pu bénéficier de cette permission de sortie. Une autorisation délivrée par un juge d'application des peines de Rennes contre l'avis du parquet et de l'administration. Ce détenu sous OQTF a été condamné en novembre dernier à 8 ans de prison pour avoir chapeauté des réseaux de drogue, de cocaïne et d'héroïne. Dehors, il pourrait réactiver ses réseaux, s'inquiète le porte-parole du syndicat CFTC Police, Axel Ronde.
Le risque, c'est qu'il puisse donner des instructions, continuer d'avoir la main sur le trafic de drogue ou sur tout type d'activité criminelle. On sait que ces gens-là, en général, ils n'arrêtent jamais, puisque des prisons, ils continuent à donner des instructions.
Ce détenu est lié à la Mocro-Mafia qui opère en Belgique et aux Pays-Bas. Il part donc rejoindre sa sœur à Mulhouse, vous l'avez dit, ville proche des frontières suisses et allemandes.
Les frontières sont poreuses dans notre pays. Cette personne peut effectivement prendre la fuite. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Et quand on met des personnes dans ces établissements hautement sécurisés, il ne faut pas qu'ils aient la possibilité de pouvoir sortir.
C'est la deuxième fois que la justice accorde une permission de sortie à un détenu d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée. En novembre 2025, un narcotrafiquant de 52 ans avait déjà obtenu une permission à Vendin-le-Vieil pour un entretien d'embauche.
Charles Bouchin du service police-justice d'Europe 1. Plus de deux mois après la mort de la jeune Liana, l'affaire continue d'ébranler les systèmes policiers et judiciaires. Une lettre adressée la semaine dernière au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez par le ministre de la Justice Gérald Darmanin fait état de profonds dysfonctionnements. Cela concerne le traitement des plaintes des mineurs dans les commissariats et les gendarmeries. Ce document pointe notamment une désorganisation totale des services d'enquête. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Pour rédiger cette lettre envoyée le 19 juillet, Gérald Darmanin s'appuie sur le témoignage de magistrats qui, pendant plusieurs semaines, ont mené une sorte d'audit dans les commissariats et les gendarmeries du pays. Et le constat qui en ressort est alarmant, à commencer par ces stocks fantômes, des dossiers inconnus de la justice, car jamais transmis au tribunal par les policiers et les gendarmes. À Nîmes, par exemple, plus de 1200 procédures pour violences sexuelles sur mineurs n'ont jamais été transmises aux tribunaux. En clair, les plaintes s'accumulent, mais restent dans les murs des commissariats et des gendarmeries et n'avancent donc jamais. Autre problème pointé par le document, une défaillance de formation aux auditions Mélanie. Ce protocole très strict pour recueillir au mieux les témoignages d'enfants. Trop peu d'officiers y sont formés. Résultat, les plaintes des mineurs sont souvent mal accueillies, prises parfois même au téléphone. De manière générale, la lettre de Gérald Darmanin fait état d'un manque d'effectifs criant, avec des enquêteurs de groupes mineurs devant parfois gérer plus de 140 procédures à la fois. Exemple au Mans, où 6 enquêteurs du groupe de protection des familles se partagent 4000 dossiers.
Antoine Bienveau du service politique d'Europe 1. En bref, Bali Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis, crie au règlement de compte politique. Il met en cause l'entourage de l'ancien maire socialiste de la commune, Mathieu Andonin. L'actuel maire LFI est dans la tourmente, vous le savez, après un article du Canard enchaîné. L'association Anticor a déposé plainte contre l'élu insoumis pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emplois fictifs. Avant de devenir maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko aurait profité d'un cumul d'emplois suspects. Sur le front des incendies dans le Var, les sapeurs-pompiers soufflent enfin avec le feu de Gros-Bessillon qui a été fixé après 18 jours de lutte acharnée. La situation s'est également stabilisée dans la Drôme où un feu a brûlé 300 hectares depuis le début de la semaine. En revanche, en Lozère, nouveau départ de feu signalé. Il a déjà parcouru une bonne centaine d'hectares depuis hier. Et alors que la France s'apprête à subir sa cinquième vague de très forte chaleur dans les prochains jours, les vendanges de Crémant en Bourgogne viennent tout juste de débuter. C'est tout simplement un record de précocité. Écoutez Thibaut Hubert, il est vigneron et c'est également le président de la Confédération des vignerons de Bourgogne.
C'est la première fois que les premiers coups de sécateur sont donnés aussitôt dans le mois d'août. La dernière fois, c'était en 2020. Vous savez, commencé le 12 août et vous voyez, là, on est le 8 août. C'est encore 4 jours d'avance. C'est exceptionnel. Alors, pour l'instant, c'est pour la récolte des créments, pour faire des créments de Bourgogne. Mais les vins tranquilles risquent de commencer dès la semaine prochaine où là aussi, c'est encore une fois un record historique. Niveau qualitatif, c'est magnifique, hein, puisque les maladies de la vigne sont essentiellement des champignons. Donc, au vu du temps qu'on a depuis le mois de mai dernier, avec ces vagues de chaleur et cette sécheresse, il n'y a aucune pression de maladie. Donc, les raisins sont très sains. La contrepartie de ces chaleurs, c'est que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jus dedans. Donc, on ne s'attend pas forcément à faire beaucoup de quantité. Mais par contre, au niveau qualitatif, ça peut être très, très beau.
Thibaut Hubert, le président de la Confédération des vignerons de Bourgogne, invité d'Europe 1 au week-end ce matin. Et puis voilà une polémique qui prend de l'ampleur autour du Palais Bourbon. Une pétition lancée par l'association Cités et Monuments contre la création d'un nouveau pavillon d'entrée à l'Assemblée nationale a déjà réuni près de 110 000 signatures. Selon ses détracteurs, le projet contrevient à plusieurs niveaux de protection du patrimoine de la capitale. Romy Azoulay pour Europe 1.
Bâtir un pavillon en verre de 4000 mètres carrés face à la Concorde, pour les défenseurs du patrimoine, ce projet briserait toute l'harmonie du secteur, en plus d'être trop haut et d'empiéter sur un espace vert protégé. Et pour autoriser le chantier, les règles d'urbanisme du quartier ont été modifiées sur mesure, une décision très mal perçue, sans oublier le coût de ce projet, estimé à près de 53 millions d'euros. C'est ce que dénonce Julien Lacaze, président de l'association Cités Monuments.
On a sabré dans le budget des monuments historiques, et on demande aux Français de faire des efforts. L'Assemblée donne en quelque sorte le mauvais exemple. Il y a des projets qui sont moins onéreux, où on conserve le bâtiment existant. Le fait de dire que l'Assemblée puise dans ses réserves comme si c'était son argent, non, ça reste l'argent de nos impôts.
Un combat soutenu par plusieurs personnalités, Stéphane Bern, Ségolène Royal, la députée RN Hélène Laporte ou encore Rachida Dati qui appelle à la mobilisation pour bloquer le projet.
Romy Azoulay pour Europe 1. Il est 7h17, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Une riche page sport vous attend dans un instant.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
Jusqu'au 21 août, gagnez un séjour inoubliable à l'hôtel Coulneau et Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes pendant les vacances scolaires. Profitez de la mer et de la piscine, ainsi que de nombreuses activités sur place, un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. L'hôtel Coulneau et Village vous accueille toute l'année dans un cadre idyllique en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 21 août à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et à la une de l'actualité sportive du cyclisme avec une nouvelle reprise du maillot jaune à la fin du Tour de France, dame Michael Juneski.
Et oui, la lutte sera serrée jusqu'au bout sur cette édition 2026 puisque la néerlandaise Demi Vollering a frappé fort sur l'avant-dernière étape, longue de 172 km jusqu'à Nice. Elle a devancé l'italienne Elisa Longo Borghini et la polonaise Katarzyna Niewamdoma qui s'était en paré de la première place hier. Conséquence au général, Demi Vollering est désormais en tête. Oui, mais pour seulement 8 petites secondes de mieux que la polonaise Katarzyna Niewamdoma après un bel effort. Demi Vollering.
Quand on fait une course en étape, chaque jour compte. On peut être triste un soir, mais le lendemain, il faut mettre un nouveau masque et y aller. Et franchement, j'ai cavalé, j'ai souffert. C'était vraiment une douleur immense.
Et du côté des tricolores, la gagnante de l'édition 2025, Pauline Ferrand-Prévot, a finalement jeté l'éponge, un abandon. La meilleure française, c'est Cédrine Kerbaol qui est pour sa part en 6e position. L'ultime étape pourra donc encore réserver des surprises ce soir. Tour de France Dames qui s'achèvera avec un dernier parcours de 99 km dans la ville de Nice.
En MotoGP, Jorge Martin fait coup double au Grand Prix de Grande-Bretagne.
Le pilote espagnol qui a réussi à signer la pole position en vue de la course principale ce soir. Et il s'est également imposé sur la sprint race. Côté français, Fabio Quartararo s'est classé 14e de la course sprint après avoir signé le 13e temps des qualifications. La course principale à suivre donc à partir de 23h, heure de Nouméa.
De la natation, Mickaël, à l'approche du début des championnats d'Europe élite, le tricolore Léon Marchand renonce sur deux distances.
La star française qui se remet encore d'une blessure a donc déclaré forfait sur les 200 mètres et 400 mètres 4 nages. Le multiple champion olympique reste tout de même encore inscrit sur deux épreuves, les 200 mètres papillon et 400 mètres nage libre. La compétition débutera dès demain soir. On rappelle que le Calédonien Maxime Grousset sera aussi présent. Lui aussi ne sera pas à 100% de ses capacités après également une blessure. Championnat d'Europe qui se dérouleront au centre aquatique du Grand Paris.
Un mot de football avec la reprise de la Ligue 2 ce matin. 9 matchs sont au programme pour le compte de la première journée, avec notamment un déplacement de Saint-Etienne sur la pelouse de Sochaux. Les Stéphanois qui mènent 3-0 au stade Bonal et il reste une petite demi-heure de jeu. Notez également ce match de Nantes qui est descendu de Ligue 1 face au Red Star. La reprise de la Ligue 1, ce sera pendant 15 jours. Notez que lors de son dernier match d'intersaison, le PSG, double champion d'Europe, a fait match nul contre Manchester United. Score final, 1-0. Et puis du tennis, Mickaël, il reste encore 2 Français à suivre à l'Open du Canada.
Et ce matin, en 8e de finale, Arthur Rinderknecht est opposé à l'Américain Brandon Nakashima. De son côté, Arthur Fils fera face au Britannique Cameron Norrie dans la matinée. Son adversaire est en 37e position à l'ATP, alors qu'Arthur Fils est désormais 24e au classement mondial.
Le sport côté calédonien à présent et hors du territoire. Tout d'abord, la sélection masculine de volleyball s'est qualifiée pour la finale des Océania.
Une victoire sur Wallis et Futuna dans le dernier carré, synonyme de billet pour aller jouer les Jeux du Pacifique 2027. En effet, seuls les 2 finalistes du tournoi de Guam pouvaient d'ores et déjà décrocher leur place pour Tahiti l'année prochaine. Les Calédoniens l'ont donc emporté hier soir contre Wallis et Futuna en demi-finale sur le score de 3-7-2. Ils devront encore affronter l'Australie en finale ce dimanche, les Australiens qui ont disposé des joueurs de Guam sur le score de 3-7-0. Je rappelle que les féminines devront patienter pour espérer aller à Tahiti. Elles ont tout de même réussi à terminer 5e du tournoi de classement avec une victoire hier sur les Palau 3-7-0.
Sur le territoire, à présent, d'autres rendez-vous à noter ce dimanche. La 5e réunion hippique de la saison qui se déroulera sur l'hippodrome Henri Millard. Une dizaine de courses sont au programme à partir de 11h et notamment la Clark Warm-up à partir de 15h35. Du football également, avec les 3 derniers quarts de finale de la Coupe de Calédonie. À 9h, l'AS Cougnier sera opposé au CA Saint-Louis. L'AS Ouetch jouera contre l'Essor d'Imbéa à 13h. Et puis un choc pour terminer à 16h, l'AS Lecce et Horizon Passo. À 3 rencontres prévues au stade du Medellet. Pour rappel, le FC Bélep Mondor est le premier qualifié pour les demi-finales après s'être imposé 4-0 sur Boulou Paris le week-end dernier. On passe au cyclisme, Mickaël, puisque l'on suivra la fin des championnat de Nouvelle-Calédonie. Ça va se passer au Mont d'Or.
Oui, la course en ligne est prévue ce matin. Avant cela, hier, les coureurs ont disputé le contre-la-montre. 34 sur la ligne de départ. C'est allé très vite. Ryan Lachny a bouclé le parcours en 20 minutes 58 secondes. Le licencié de Sport Po a donc remporté le titre du contre-la-montre avec 1 minute 17 secondes d'avance sur Florian Barquette du VCC Mont d'Or. 2 minutes 39 sur Christophe Laurent de l'ECV. On écoute le vainqueur, Ryan Lachny.
Sur le contre-la-montre, c'est jamais facile parce que c'est un effort individuel où on est tout seul sur le vélo, on n'a pas vraiment d'adversaire, mis à part la montre. Du coup, c'était un très beau parcours que les organisateurs ont fait, avec une très belle moyenne à 47,7 de moyenne, si je ne me trompe pas. Ça finit en 21 minutes d'effort pour la gagne. Je suis parti dernier du contre-la-montre avec des départs qui étaient échelonnés toutes les minutes. Du coup, ça m'a vite permis d'avoir un point de mire. Après, je savais ce que j'avais à faire, j'avais déjà un petit peu repérer le parcours, je savais où fallait mettre de la puissance et où fallait en garder un peu sous la pédale. Du coup, tout s'est bien passé comme je l'avais prévu.
Ryan Lachny de Sport Pro, champion de Nouvelle-Calédonie du contre-la-montre. Chez les jeunes, c'est Nino Durand, licencié du VTT Passion, qui s'est imposé. Chez les dames, un doublé de l'ECV, Louise Chavitz chez les adultes, Hortense Huette chez les jeunes. Rendez-vous donc ce matin pour la course en ligne, départ prévu à 8h au Mont d'Or.
On signalera qu'hier, Natalia Prado et Angélique Claire ont remporté la 6e édition du Run and Bike de la Sport Team organisée sur la promenade de Pierre Vernier. Et puis c'est une discipline qui prend de plus en plus d'essor, le basket 3 contre 3, avec une nouvelle manche de la Coupe Suzuki qui s'est disputée hier au complexe sportif de Lanzvata, Mickaël.
Oui, une nouvelle date pour la discipline qui continue de se développer chez les féminines. Ce sont les joueuses du Mont d'Or qui ont remporté la finale face à l'Aise, 6e kilomètre sur le score de 13-9. Maëlys Tétouanoué du Mont d'Or Basket Club.
Ça s'est bien passé, on a perdu contre le 6e en match avant la finale. On va dire que c'est un peu la revanche, quoi. Ça fait toujours plaisir, et surtout qu'on en manque de beaucoup de championnats, de matchs et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des journées comme ça. Ça prend beaucoup d'ampleur, sachant que le 5-5 en Nouvelle-Calédonie, en tout cas au basket, est éliminé pour les Jeux du Pacifique l'année prochaine. Donc c'est une porte ouverte pour nous les jeunes, en tout cas, pour participer aux Jeux du Pacifique l'année prochaine.
Et chez les messieurs, l'équipe de Dimbéa s'est imposée contre le 6e kilomètre également, 15-12. Edouard Esneux, capitaine du jour pour les Spartiates de Dimbéa.
C'est bien, c'est des tournois qui se font à chaque fois avant les vacances. Donc on remercie déjà la Ligue et le 3-3 de proposer ça. Et à chaque fois, ça s'accroche au fur et à mesure. C'est bien, là, c'était un combat, fin de journée, tout le monde est fatigué. C'est à celui qui fait le petit effort en plus. Ils n'ont rien lâché, mais on est resté devant tout le match quand même. Et il faut des événements basket, que ce soit 3-3, 5-5 ou sous d'autres formes. Il faut que les plus jeunes y jouent, qu'ils emmagasinent un petit peu d'expérience. Pour nous, les anciens, ça nous permet aussi de se retrouver et puis de prendre du plaisir. Merci aux bénévoles, hein, c'est du bénévolat comme souvent.
Et les équipes étaient réunies pour cette troisième manche de la Suzuki Cup. Prochain rendez-vous en septembre avec un retour sur les Kéferi.
Page sport signée Mickaël Juneski. On termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sur les murs depuis 1971. Showroom sur les bains à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Pierre.
Eh bien écoutez, ce matin, Lionel Sabot, nous aurons un joli bleu. Le soleil dominera largement sur le sud et notamment autour du Grand Nouméa, ainsi que du côté de l'île des Pins. Sur la côte ouest de Bourail jusqu'au nord, le début de journée sera également assez lumineux, même si quelques passages nuageux pourront circuler. Du côté de Koné, une petite averse restera possible en matinée avant un retour rapide des éclaircies. Sur la côte est, le ciel sera parfois plus chargé au lever du jour, notamment autour de Pointe-d'Imier, avant de devenir progressivement plus lumineux. Au Loyauté, la matinée commencera sous de belles éclaircies. Quelques nuages pourront toutefois se développer, avec une petite averse possible autour de Lifou en fin de matinée. Côté température, parce que ça nous intéresse quand même en ce moment, il fera quand même frais au réveil, autour de 15 degrés vers Bourail, 16 et 17 dans le nord et sur Nouméa, et plutôt 18 à 19 degrés sur la côte est, au Loyauté et à l'île des Pins. Cet après-midi, le soleil restera généreux sur une grande partie du territoire. Les maximales atteindront généralement 23 à 26 degrés, avec jusqu'à 26 degrés dans le nord et au Loyauté.
Me disait bien qu'il faisait froid ce matin quand je suis parti de la maison. Pourtant, c'était pas Bourail, hein, mais 16 degrés, pas bien plus au compteur de la voiture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente matinée, un très bon dimanche sur Radio Rythme Bleu. J'aurai grand plaisir à vous retrouver à 8h pour d'autres infos.